Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est une figure mal connue de beaucoup dont nous allons parler ce matin, une femme d'avant-garde, une vie de laïque consacrée au début du XXe siècle, époque où la seule voie pour une personne éblouie par Dieu était d'entrer dans la vie religieuse, une vie en banlieue communiste, à une époque où le catholicisme pouvait être vu comme une affaire de classe, une vie à chercher Dieu en clair-obscur, loin d'une foi triomphaliste, une marche entre deux abîmes, comme elle disait, celle des mystères de Dieu et celle de son rejet. Une vie enfin qui sent le foin, et cela tombe bien cette veille de Noël, car dans le fond, la passion de Madeleine Delbrel fut celle d'un Dieu qui se cache dans les plis de nos vies. À la découverte de Madeleine Delbrel, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler, Jean-Marc Echen, vous êtes évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, en dépit de probablement des difficultés de circulation et de votre agenda fort chargé. On va donc découvrir cette figure. Moi, j'ai son on va dire en plus son visage sous les yeux, avec quelques ouvrages que l'on a. Je me disais, pour commencer, allez, on pourrait commencer par l'une ou l'autre de ces citations qui plantent un peu la femme qu'elle est et sa liberté. Est-ce que vous en connaissez certaines par cœur ou faut-il que je vous aide ?
Vous allez m'aider. Ça m'évitera d'errer.
Alors, pour trouver Dieu, il faut savoir qu'il est partout. Si tu vas au fond de toi, tu trouves Dieu lui-même. Mon Dieu, si vous êtes partout, comment se fait-il que je sois si souvent ailleurs ? On aurait pu trouver certaines citations plus, on va dire, plus originales. Rentre tes angles, tu te cogneras moins. Avant qu'on se plonge un petit peu dans sa vie, Jean-Marc Echen, qu'est-ce qui vous frappe chez cette femme et pourquoi vous l'aimez beaucoup ?
Ce qui me frappe particulièrement, c'est la profondeur de sa spiritualité. Et à travers des mots tout simples, puis elle avait été primée d'ailleurs pour un ouvrage de poésie, donc elle sait très bien utiliser les mots, elle va à l'essentiel de la vie chrétienne. Et sans doute que son partenariat au quotidien, son travail avec des gens qui ne partageaient pas la foi chrétienne, lui a permis aussi d'adapter son langage pour être comprise. C'est un des défis que nous avons à relever aujourd'hui aussi, que celui d'essayer d'abandonner un langage qui pourrait être un langage un peu boutique pour être face à des gens qui, n'ayant pas de culture chrétienne, risquent de ne pas comprendre de quoi nous parlons. Et donc je trouve que sa spiritualité, elle est capable de dire des choses essentielles avec des mots simples. Donc utiliser les mots simples sans être simpliste. Et ça, c'est vraiment un art tout à fait extraordinaire. Et elle le maîtrise très bien, vraiment.
Alors, elle a beaucoup écrit. Hein. Aujourd'hui, il y a donc l'intégrale de ses écrits ou de ses correspondances. Je crois qu'il y a une quinzaine de volumes. On ne les lira pas à l'antenne, mais on donnera quelques pistes à la fin. On va, comme à chaque fois, pour les découvertes de ces figures spirituelles, commencer par faire un peu sa biographie dans cette première partie. Dans la deuxième, on verra les grands traits de sa spiritualité et puis ce que ça peut nous dire. Et vous, ce que ça vous dit aussi comme évêque de ce territoire qui est Pamiers, Couserans et Mirepoix. Et puis à la fin, on finira par des questions peut-être plus personnelles, puisque votre devise épiscopale est une phrase donc, de Madeleine Delbrel. Je vous laisser la dire en latin et puis je donnerai la traduction.
Non importet agere, sed agi.
Il n'importe pas tant d'agir que d'être agi. Voilà, vous nous expliquerez pourquoi vous avez choisi cette devise épiscopale. Si on commence par la vie de cette femme, donc elle naît en 1904, elle décède en 1964. Il y a à la fois quelques temps et dans le fond, c'est une figure assez proche. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de sa vie de famille ? C'est la fille unique d'un couple un peu particulier. Décrivez-nous un peu sa vie de famille.
Oui, c'était une famille finalement non chrétienne, ou disons chrétienne de tradition, puisqu'elle était donc de Dordogne. Et souvent dans ces territoires ruraux, il y avait une tradition chrétienne, mais il n'y avait pas une adhésion passant par une pratique religieuse. Son père et son grand-père étaient cheminots. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle pas mal des cheminots à travers les mouvements sociaux. Donc, mais ça dit aussi une certaine forme d'adhésion, une vision de la société extraite, qui s'est extrait un peu des racines chrétiennes pour être, surtout dans des périodes complexes comme le début du XXe siècle, pour être aussi dans une autre vision de la société. Et puis finalement, ce qui lui fera découvrir la foi, Elle a eu un écrit très, très violent, vous savez, comme au temps de l'adolescence, à 17 ans. Elle a fait une sorte de profession de foi d'athéisme, une profession de combat contre Dieu. Mais elle découvre ensuite à travers un groupe d'amis.
Alors juste, j'aimerais qu'on aille un tout petit peu moins vite, même si on passe qu'un quart d'heure sur sa biographie. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots aussi de... on dit que ses parents, c'était un couple mal assorti, son père ou dans la famille de son père, on avait une certaine fragilité de santé, voire une fragilité psychique. Madeleine Delbrel elle-même a été souvent malade. Ça n'est pas rien, il ne s'agit pas de la montrer du doigt, mais ça marque aussi quelqu'un. Vous pourriez nous dire quelques mots de ça ?
Oui, je n'ai pas approfondi plus précisément cette question-là, mais effectivement, on fait allusion à cette fragilité. En relisant des passages concernant ces éléments biographiques, cela me faisait penser aussi aux parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui étaient aussi marqué par des fragilités personnelles de santé et de psychisme. Et sans doute que Madeleine Delbrel, dans son parcours, on sent qu'elle est héritière de ça, y compris au plan de sa structuration physique et psychologique. Elle a des moments de découragement, voire de dépression. Et en même temps, dans la mesure où elle vit ça dans la foi, un peu comme des temps de descente dans les ténèbres, elle est tout à fait capable d'une résilience extraordinaire, et c'est sans doute aussi ce qui donne de la profondeur à sa spiritualité.
Alors à propos de l'athéisme, donc elle, c'est une femme assez originale. Je l'ai lu, donc poète, artiste, elle joue du piano, elle aime danser, mais rapidement à l'adolescence, donc elle fait face à une certaine absurdité de la vie. Elle a ce texte, je vais juste en lire un extrait. On a dit Dieu est mort, puisque c'est vrai, il faut avoir l'honnêteté de ne plus vivre comme s'il vivait. On a réglé la question pour lui, reste à la régler pour nous. Et puis, à la fin, cette phrase, les savants sont un peu enfants, ils croient toujours tuer la mort, ils tuent des façons de mourir, la rage, la variole, la mort, elle se porte bien. C'est quelqu'un qui était d'un athéisme, dur, l'athéisme tout court, avec une forme de nihilisme. Elle a connu la morsure, je crois, c'est l'expression qu'elle utilisait de l'athéisme.
Oui. Elle a vraiment connu cette morsure-là, y compris parce que c'est vraiment une intelligence, une belle intelligence. Et donc le questionnement, on retrouve ça chez Camus par exemple, sur l'absurdité d'une existence marquée par la mort, marquée par la souffrance. Ça la marque tellement qu'elle se dit « mais on nous dit qu'il y a un Dieu tout-puissant, un Dieu d'amour, mais comment peut-il accepter que les humains soient marqués de telle manière par la souffrance et par la mort ?» Et donc elle en arrive à une affirmation, une négation de l'existence de Dieu. Et elle retrouvera cela ensuite dans l'athéisme idéologique des communistes, qui seront un peu ses compagnons d'engagement auprès des plus pauvres. Si ce n'est qu'entre-temps, elle leur a fait un chemin de foi et un chemin de conversion.
Alors allez-y, vous étiez en train de nous raconter. Donc elle a rencontré des amis chrétiens pendant son adolescence, même un garçon. Et puis derrière, il y a un chemin de foi qui s'est ouvert. Raconte-nous ce chemin qui, là aussi, se fait vraiment en clair-obscur. Hein,
à travers ses amis chrétiens, en particulier un jeune garçon dont elle était amoureuse et avec lequel elle aurait imaginé faire sa vie, mais qui lui annonçait qu'il entrait chez les Dominicains. Ça a été un vrai choc pour elle aussi. À travers le parcours personnel de tel ou tel de ses amis, marqué par la foi, quand quelqu'un qu'on aime et qu'on admire est dans un chemin de foi, ça nous pose fatalement question. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, même si on n'y adhère pas au point de départ, qu'est-ce qu'il y a derrière cette démarche ? Je crois que le scoutisme l'a beaucoup marqué aussi. Ça a été aussi un lieu d'engagement et un lieu d'engagement chrétien. Donc, chemin faisant, finalement, elle a découvert de l'intérieur ce chemin de vie chrétienne. Elle a découvert la lumière du Christ qui venait revisiter ses rébellions intérieures et intellectuelles par rapport à l'absurdité de la souffrance et de la mort et de l'état du monde.
Donc elle a une conversion qu'elle dit violente, c'est en mars 1924, on sait très peu de choses sur sa conversion, elle a été très pudique là-dessus, il n'empêche que sa vie bascule. Avant qu'elle s'installe à Ivry, donc en banlieue communiste, en région parisienne, qu'est-ce qu'on peut dire de cet entre-deux ? C'est quoi ? C'est une femme qui se cherche, qui commence des études d'assistante sociale, une poète ?
Oui, c'est une femme qui, cela arrive parfois, qui a pas mal de cordes à son arc Et parfois, choisir une orientation professionnelle de vie, quand on est capable de faire 1000 choses, c'est pas si simple, parce que choisir, c'est aussi renoncer. Mais elle est aussi travaillée par toutes ces questions-là, ces interrogations métaphysiques, on pourrait dire. Et c'est vrai qu'elle parle de cet éblouissement, elle dit ébloui par Dieu dans cette église Saint-Dominique.
À Paris, c'est ça.
Et donc, ça marque vraiment son parcours de vie. Elle est très pudique là-dessus, d'ailleurs. On est dans un temps où on offre beaucoup de témoignages sur ses moments de conversion. Elle en parle assez peu, peut-être parce qu'elle doit considérer que c'est indicible. C'est quelque chose de l'ordre d'une émotion tellement forte qu'elle ne peut pas l'exprimer de manière cohérente par des mots, mais il y a vraiment un avant et un après par rapport à cette rencontre dans sa vie personnelle et dans sa vie de foi. Donc là, c'était en mars 1924, dans le 14e arrondissement.
Donc 1933, elle décide, cette Gasconne, on a oublié de dire qu'elle était Gasconne, donc femme de tempérament, comme beaucoup de gens dans le sud-ouest quand même, elle décide de s'installer à Ivry. Alors Ivry, donc c'est les banlieues communistes, il faut dire qu'on est quand même avant la Seconde Guerre mondiale, hein. Donc ça remonte à loin, on peut avoir du mal à imaginer ce à quoi ressemblait Paris, mais voilà, c'était un monde en soi. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que ça représentait pour une femme célibataire, donc une laïque, de décider d'aller vivre comme ça, alors en accord je crois avec son évêque, elle était accompagnée quand même par l'archevêque de Paris, mais il y avait une audace un peu folle, non ?
Oui, il y avait certainement une audace. Et puis là, nous allons entrer dans la célébration du mystère de Noël. Il y a cette idée d'aller rejoindre ce que dit souvent le pape François, les périphéries. Donc peut-être les plus pauvres, un peu comme Jésus vient au milieu des bergers dans la crèche. Donc dans sa réflexion personnelle, elle se dit, mais où l'évangile a-t-il besoin d'être annoncé ? Non seulement par la parole, mais par un témoignage de vie, dans ses périphéries existentielles et en ce temps qui est le sien, ces quartiers du sud de Paris marqués par le communisme, c'est pour elle comme une évidence, en se disant c'est là qu'il faut aller annoncer l'évangile.
Parce que c'est là où personne n'allait, enfin chrétiens ne se précipitaient pas là-bas en tout cas.
Non. Et dans ce grand diocèse de Paris, alors moi j'ai vécu dans ce Val-de-Marne, évidemment un peu plus tardivement que Madeleine Delbrel, mais qui était encore fortement marqué par le communisme. En 1968, il y avait quand même le drapeau rouge sur l'église à Ivry-sur-Seine, et marqué aussi par une dynamique d'engagement de chrétiens, y compris des prêtres ouvriers, qui choisissaient de s'insérer dans ce tissu social pour essayer du mieux possible de témoigner du Christ. Donc c'est vraiment son choix d'aller, c'est un choix, on pourrait dire, en reprenant Philippiens, un choix de kénose, d'aller là dans les lieux de ténèbres pour y apporter la lumière du Christ. Alors, quelques-unes, pas toutes seules, avec quelques amis.
Donc ça s'appelait la Charité, c'était quoi ? C'était une association en fait ou...
C'était une association de fidèles, mais on pourrait dire que c'était une communauté religieuse, alors qu'il n'a jamais... qui n'est jamais allé jusqu'à se définir des statuts canoniques. C'était en route, mais il fallait voir si ça pouvait vivre. Mais ce sont des femmes consacrées, une certaine consécration de fait, qui choisissent de rester célibataires, de s'engager dans ces quartiers, y compris comme Madeleine Delbrel, comme assistante sociale. Mais en tout cas, en faisant le choix de dire « je ne peux pas être témoin du Christ dans des zones aussi difficiles » sans m'appuyer sur une vie communautaire et fraternelle avec quelques sœurs avec lesquelles je prierai, je relirai ma vie, je partagerai l'évangile.
Donc elle est assistante sociale, elles ont une vie donc de proximité, elles connaissent, elles aiment leurs voisins, elle est même engagée dans la ville, elle a des relations avec la mairie communiste de l'époque. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire peut-être, on y reviendra, mais de sa relation justement avec les communistes. J'ai trouvé une phrase d'elle, « Dieu ne nous a pas dit aime ton prochain sauf les communistes ». Et en même temps, j'ai vu que quand Khrouchtchev est venu à Ivry, donc dirigeant de l'URSS, elle a choisi de ne pas y aller en expliquant qu'il y avait des persécutions religieuses en URSS. Donc elle était amicale, mais on va dire bien posée.
Oui, c'est ça. Elle savait trouver la bonne distance. À un certain moment, dans cette mairie d'Ivry-sur-Seine, où elle était repérée comme assistante sociale, elle travaillait aussi avec des travailleurs sociaux qui, eux, adhéraient au Parti communiste et à l'idéologie athée. Mais Donc elle était engagée dans l'action pour venir au secours de familles en difficulté, mais en n'allant jamais jusqu'à adhérer à l'idéologie qui était un peu les fondations pour eux, pour ses compagnons de travail. Et elle a toujours été très claire là-dessus, y compris pour aider des prêtres ouvriers qui parfois allaient dans l'immersion jusqu'à l'adhésion au Parti communiste et à l'idéologie marxiste. Elle les a toujours aidés à discerner pour dire non, là, on ne peut pas adhérer à cela. On peut s'engager dans une praxis, dans une action, mais on ne peut pas s'engager dans le fond de la pensée et de la vision de l'homme que défendent les marxistes et les communistes.
Elle meurt donc en 1964, c'est une mort relativement subite, elle meurt relativement jeune, à 60 ans. Elle a été déclarée vénérable par l'Église, c'était en 2018, son procès en béatification est en cours, comme on dit, donc pour être déclarée bienheureuse, considérée comme telle par l'Église. Il y a de multiples ouvrages à citer, mais on en cite au moins un avant de faire une première pause et de se plonger un peu dans certains aspects de sa spiritualité. L'ébloui de Dieu, les plus beaux textes de Madeleine Delbrel, c'est aux éditions Nouvelle Cité. On fait une première pause musicale et on vous retrouve, Jean-Marc Echen, pour parler de Madeleine Delbrel.
Présence à Millau 106.5.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
La découverte de Madeleine Delbrel, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler, Jean-Marc Echène, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix, donc l'un des diocèses de notre région occitane, pas très loin des Pyrénées. Dans cette deuxième partie, donc, on va essayer de souligner quelques-uns des aspects de sa vie et de sa spiritualité. La première chose que vous vouliez souligner, que l'on voulait souligner, c'était sa profonde liberté. On a cité quelques citations, on a donné quelques citations au début, mais on va essayer de trouver à l'illustrer autrement. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de sa liberté, je disais en introduction, voilà, c'est une femme qui était une laïque à une époque où, on va dire, la vie consacrée, c'était d'abord la vie religieuse. Elle choisit, donc on l'a dit, d'aller vivre en banlieue communiste, là où on ne se précipitait pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il paraît qu'elle était très joyeuse. Il y a quelque chose de très franciscain chez cette femme.
Vous voyez, quelque chose de franciscain, quelque chose de joyeux, de toujours ancré dans l'humour, c'est-à-dire d'aborder des questions essentielles, des questions profondes, métaphysiques, y compris celles de la souffrance et de la mort, mais avec un sourire au coin des lèvres et avec l'humour qui de Dieu, qui vient de l'Évangile. Humour, c'est, on dit souvent, c'est humilité et amour. Donc conscience de notre petitesse et en même temps amour, prendre conscience que Dieu nous aime et que nous sommes appelés à aimer comme lui. Et donc ça, c'est l'humour. Il y a un titre d'ailleurs d'un des ouvrages de ces œuvres complètes là qui s'intitule L'humour dans l'amour, et ça dit vraiment quelque chose d'elle. Et finalement, avoir cette dose d'humour, ça rend assez libre. Ça rend libre aussi quelqu'un qui a de l'humour, qui dans une réunion un peu sérieuse, à un certain moment, lance comme ça une petite blague ou une petite pique. C'est quelqu'un qui est libre par rapport au comportement, par rapport à l'attitude, et qui donne aussi une liberté intérieure. Au fond, la vraie liberté, la liberté qui vient de Dieu, c'est de se laisser guider par l'esprit qui nous conduit en dehors des conventions sociales. On n'est pas libre quand on est pris dans toutes sortes de conventions qui nous empêchent de dire des choses, de poser des actes, d'aller dans certaines parties du territoire. Et l'esprit, lui, nous libère de ces conventions. D'ailleurs, elle dit dans des textes assez fondamentaux, dans un appel à une sorte de radicalité chrétienne, elle dit « On a vécu d'un christianisme de convention sociale, et dans des temps ou dans des lieux où il n'est plus conventionnel d'être chrétien, un christianisme de convention sociale est appelé à disparaître. » Et c'est de fait ce qui se produit dans des territoires marqués par un athéisme idéologique ou pratique. Donc il y a vraiment un appel chez elle à prendre l'évangile au sérieux.
À sortir au grand large, en fait. Hein,
c'est... À sortir au grand large.
Juste pour compléter votre propos, j'ai vu cette... c'est dans une interview au journal Croire, je crois du postulataire de la cause en béatification de Madeleine Delbrel. Il rapporte que quand le barrage de Fréjus s'est effondré en 1959, elle a dit « Voilà, c'est ça qui est en train de nous arriver. La construction de l'église est solide, mais la roche est pourrie. » Elle parlait de la roche de la foi. Elle voyait que les gens vivaient dans des habitudes chrétiennes dont on ne peut plus se contenter.
Voilà.
Elle avait une longueur d'avance, en l'occurrence.
Puis elle savait utiliser les images. C'est vrai que ce barrage de Malpassé, il m'est arrivé d'aller dans cette région-là. C'est tout à fait impressionnant de voir les dégâts que ça peut faire. Et finalement, on pourrait dire, sans abuser de ces formules, qu'il y avait une certaine notion prophétique. Quand on voit la situation de l'Église aujourd'hui, on pourrait parler d'une Église en situation d'effondrement pour toutes sortes de réalités. Alors il y a l'image de Notre-Dame de Paris en feu, mais il y a tous ces scandales aussi d'agressions sur des enfants de la part de membres du clergé. Donc on a été dans une période de l'Église dans laquelle on s'est contenté de, comme l'Église avait pignon sur rue parce que socialement parlant elle était respectée, je disais c'est bon, on n'a pas à se remettre en cause, mais au fond c'était pas un christianisme suffisamment ancré dans notre intériorité, dans un style de vie engageant toutes les dimensions de notre existence. Donc le jour où il y a des drames comme ceux qui marquent notre temps, ben, ce christianisme-là est balayé en quelque sorte, comme le barrage de Malpassé.
J'aimerais qu'on fasse maintenant qu'on parle du parallèle qu'on fait parfois entre elle et Charles de Foucault, parce que peut-être cela peut nous dire aussi la manière qu'elle avait d'être à la fois extrêmement ardente et de vouloir annoncer Dieu et en même temps de le faire de manière profondément désarmée. Alors Charles de Foucault, donc pour rappel, c'était cet homme de Dieu aussi, grande figure du XXe siècle, hein, qui est allé vivre dans le désert au Sahara. Après une conversion aussi on va dire importante, homme aussi d'une grande liberté, pas toujours aussi très connu. Pourquoi est-ce que le rapprochement entre les deux peut être intéressant? On peut pas dire qu'ils étaient pas ardents ni l'un ni l'autre et qu'ils avaient pas envie de crier l'évangile par toute leur vie.
Alors, ce que je trouve intéressant dans ce rapprochement que vous suggérez, c'est que l'un comme l'autre finalement n'ont pas vu les fruits de leur engagement radical en terre hostile, entre guillemets, même si quand on va à la rencontre des gens, ce ne sont pas des ennemis, ce sont d'abord des gens à aimer au nom du Seigneur, mais que ce soit Charles de Foucault en terre marquée par l'islam ou Madeleine Delbrel en terre marquée par le communisme, ils n'ont pas rempli des églises ou créé de communautés religieuses absolument florissantes. Finalement, la petite fraternité, charité de Madeleine Delbrel n'a pas eu d'avenir. Simplement, ils ont choisi de poser là une vie offerte et donnée au cœur de réalités apparemment loin de l'Évangile, en pariant sur les fruits que cela peut donner dans la logique de la communion des saints et pour l'Église de manière non visible aujourd'hui, mais de manière qui apparaîtront plus tard dans cette claire vision du royaume. Donc c'est tout à fait extraordinaire de cette fidélité de se dire « voilà, je suis là depuis quelques années, je suis là auprès des plus pauvres, en terre sans foi ».
Donc là, à Ivry en l'occurrence.
À Ivry.
Oui. Et ça n'était pas sans doute et sans combat. Hein. D'ailleurs, elle dit souvent que la vie chrétienne, c'est un combat et on entend qu'il y a des moments de découragement.
Alors, il y a des moments de découragement en se disant « mais dans quoi j'ai engagé ma vie ?» Parfois, ça me fait penser aux prêtres d'aujourd'hui. Je vais célébrer bientôt les funérailles d'un prêtre qui était presque centenaire. Quand on regarde un siècle écoulé et puis l'état de l'Église au moment où ils ont commencé à exercer leur ministère, et l'état de l'Église aujourd'hui, le nombre d'enfants au catéchisme, la pratique religieuse, ils peuvent se dire « mais est-ce que j'ai bien fait de donner ma vie? Dans quoi ai-je engagé ma vie? Est-ce qu'elle a été fructueuse ?» Alors, à vue humaine, non, mais dans la foi, on peut penser qu'il y a des fruits tout à fait extraordinaires qu'on ne voit pas apparaître aujourd'hui, mais tout ça, c'est versé dans le capital d'amour et d'offrande de soi que le Seigneur lui utilise à sa guise.
Elle avait une expression « être Jésus-Christ au milieu des gens ». Est-ce que vous pouvez l'expliquer un petit peu cette phrase, essayer de nous dire un peu ce qu'elle dit, comment elle résonne pour vous, être Jésus-Christ au milieu des gens? Ce qu'on entend, c'est pareil comme Charles de Foucault, c'est que il faudrait d'abord que nos vies parlent de Dieu avant qu'on parle de Dieu tout court. Alors on va pas refaire peut-être un débat qui parfois déchire probablement inutilement l'Église, mais cette phrase, que dit-elle?
Elle dit, on a réutilisé beaucoup cette phrase-là dans mon diocèse pour inviter les gens à se dire, mais témoins du Christ, ou ceux qui sont pour le monde aujourd'hui d'autres Christ, ne sont pas seulement les prêtres, les religieux et les religieuses, mais tous ceux qui sont consacrés au Christ par leur baptême, qui sont faits par le baptême prêtres, prophètes et rois. Et ça veut dire que par ce statut, cette onction qui marque radicalement notre existence, cette onction baptismale, là où on donne à voir le visage du Christ. Alors d'abord par notre style de vie, par l'exercice de la charité, de l'espérance et de la foi. Comme le dit le pape François dans la joie de l'Évangile, il dit, de manière indirecte d'ailleurs, parce qu'il est très fin, il dit « il faut qu'on annonce le Christ aussi par la parole ». Mais si on l'annonce aussi par la parole, ça veut dire qu'on l'annonce d'abord par sa manière de vivre et sa manière d'être, ou par son style de vie, comme se plaît à dire souvent le pape François. Et là, Madeleine Delbrel, manifestement, quand on écoute les témoignages de ses contemporains qui n'adhéraient pas à sa foi, elle donnait à voir le message de l'Évangile, le Christ et son message, à travers son engagement constant, durable, fidèle auprès des plus pauvres, en s'oubliant presque radicalement elle-même, si elle est décédée finalement.
Elle est morte d'épuisement aussi, on disait
d'épuisement,
parfois.
D'épuisement, hein, oui. On pourrait faire le parallèle avec Simone Veil. À un certain moment, elle s'est tellement donnée pour les autres que mourir à 60 ans, c'est jeune encore. Enfin, moi qui ai passé depuis peu 60 ans, je me dis que c'est encore un peu jeune. Mais donc il y a vraiment une manière de donner sa vie. Et encore aujourd'hui, dans cette mairie qui est encore marquée par
qui est toujours communiste,
qui est toujours communiste, ouais. Il y a un vrai investissement.
Ils sont en train de réhabiliter sa maison, d'ailleurs, faire un lieu de pèlerinage.
Voilà.
Ça a été inauguré par le maire communiste en présence de l'évêque. C'est cocasse aujourd'hui encore.
Oui, mais... c'est tout à fait étonnant. Ça veut dire que son témoignage a donné des fruits. Elle ne les a pas vus, mais qu'encore aujourd'hui, les gens se sont dit, mais là, on avait une pépite d'évangile, on n'a peut-être pas pris la mesure. Alors, ils n'ont pas tous adhéré explicitement à l'Évangile, mais il y a vraiment des choses posées très fortes.
Je cite un ou deux passages de ce livre que j'ai cité tout à l'heure, « L'ébloui de Dieu » paru aux éditions Nouvelle Cité. C'est du Madeleine Delbrel. « Être pauvre, c'est avoir le cœur trop petit pour Dieu. Alors, on sort tout le reste pour que le plus grand morceau de Dieu puisse y tenir. » Et puis, un petit peu plus loin, « Être pauvre, c'est manquer de quelque chose. L'utile n'est pas nécessaire. Tout ce dont nous pourrions nous passer et que nous gardons prive Dieu d'un peu de nous. » Prive un frère de quelque chose. J'aimerais qu'on parle un petit peu aussi de son rapport au communisme. Alors aujourd'hui, le communisme, c'est une idéologie qui a moins cours dans notre société. On dit qu'elle a eu une forme de tentation du communisme. Expliquez-nous peut-être le chemin intérieur qu'elle a fait, ou en tout cas ce que vous en savez, face, on va dire, aux grandes questions de la vie. Elle avait été éblouie par la foi. Comment est-ce qu'elle a répondu un peu à cette idéologie ?
Alors, elle a fait le choix très concret, de s'engager au nom de l'Évangile auprès des plus pauvres, auprès des personnes sans protection sociale ou touchées par les malheurs de la vie. Et d'ailleurs, son engagement professionnel disait cela, elle qui était assistante sociale. Donc, à un certain moment, la tentation, entre guillemets, pour des gens qui sont dans ce choix radical de charité, d'investissement auprès des plus fragiles, c'est de dire, mais ceux qui se donnent, y compris dans leur engagement politique, social le plus, aujourd'hui autour de moi, ce sont des communistes. Donc est-ce que ce ne sont pas eux qui auraient raison ? Est-ce que je ne dois pas finalement adhérer à leur idéologie parce que ils sont dans la vérité de l'engagement, et bien plus que certains membres de mon église qui sont plutôt dans les beaux quartiers parisiens.
Et puis, ils ont envie de transformer la société aussi.
Ils ont envie de changer la société.
C'était une intention profonde chez elles.
Voilà,
à une époque où il n'y avait pas toutes les lois sociales de l'époque.
De la rendre plus juste, plus solidaire. Voilà. Donc, il y a cette tentation, comme une tentation qu'ont connue aussi les prêtres qui sont engagés comme prêtres ouvriers avant d'être condamnés par Rome. Et elle n'a jamais été jusqu'à dire « je vais adhérer à cette vision de l'homme » qui vient de l'idéologie marxiste, du manifeste du Parti communiste, de Karl Marx. Pour elle, sa vision de l'homme, c'était l'Évangile. Et elle exprimait plusieurs fois de manière très claire, en disant qu'il y a un gouffre immense entre la vision de l'homme du marxisme et celle de l'Évangile. La question de la lutte des classes, par exemple, de dire qu'il faut qu'on soit sans arrêt dans une sorte de confrontation, pour savoir qui va obtenir le pouvoir, est-ce que ce sont les ouvriers ou est-ce que ce sont les patrons. Cette idée que parce qu'on est patron, on est forcément mauvais, ou parce qu'on est ouvrier, on est forcément bon, pour elle, c'est tellement loin de l'Évangile qu'elle ne peut pas adhérer à cela. Donc elle a été en quelque sorte préservée à cause de la profondeur de sa vie spirituelle, de sa connaissance tellement profonde, de son intimité avec le Christ, sa connaissance tellement profonde de l'Évangile, elle a été préservée de la tentation d'adhérer à une idéologie incompatible avec l'Évangile.
Qu'est-ce que ça peut nous dire à nous, aujourd'hui, puisqu'on essaye de faire des allers-retours ? Aujourd'hui, la grande tentation de la société française, c'est pas la tentation marxiste, mais on sent que l'idéologie, de toute façon, en France, est toujours proche. Et puis, il y a quand même des tentations, on va dire, un peu nihilistes. Et derrière, des aspirations légitimes à de la reconnaissance, plus de justice. Bref, les auditeurs comprendront.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas face à un athéisme idéologique, mais face à un athéisme pratique. En particulier, cette idée que le bonheur de l'homme serait dans la consommation. Et Donc,
même en Ariège ? Un peu moins en Ariège, quand même.
Alors, un peu moins en Ariège, oui. Parce que, par la force des choses, peut-être parce qu'on est plus près de la nature aussi. On est loin des centres commerciaux, puis on a moins de moyens économiques aussi. Mais à un certain moment, face à cette idéologie du libéralisme économique qui pourrait nous faire penser que le bonheur est dans l'achat de biens de consommation, donc le bonheur serait extérieur à nous-mêmes, serait finalement dans des objets de consommation, dans des substances, dans des drogues, dans toutes sortes de choses. Cette idée que le bonheur, il a une source intérieure, cette source intérieure, c'est la présence de Dieu en nous. Et le vrai bonheur, c'est peut-être d'être dans une vie sobre, mais de donner le meilleur de nous-mêmes à travers nos engagements, et en particulier auprès des plus petits, des plus pauvres, se décentrer de soi, revenir à soi pour y trouver la présence du Seigneur, et le Seigneur qui nous décentre de nous-mêmes pour nous ouvrir aux autres dans une démarche de charité. Et ça, c'est vraiment en contradiction avec la logique dominante du monde qui est le nôtre.
Et c'est, on peut répondre par cette attitude aussi à la soif de justice qu'on peut avoir. Comment est-ce qu'on peut articuler ça? Comment est-ce que Madeleine Delbrel, dans le fond, elle arrivait à s'en sortir? Parce que on peut trouver que c'est une réponse un peu passive quand même, ce que vous décrivez. C'est...
Alors,
il y a un engagement aussi social et politique qui peut être
Il y a un engagement social et politique, déjà un engagement social au quotidien, bon, pour elle à travers son travail et puis à travers la préoccupation qu'on peut avoir dans la vie associative, dans la vie politique, en s'engageant, on va être bientôt dans les périodes d'élections municipales. La doctrine sociale de l'Église parle de structure de péché. Il y a à un certain moment des logiques inégalitaires dans notre monde qui sont liés à l'organisation de la société. Donc cette organisation, il faut aussi la transformer pour que les structures soient moins des structures de péché ou des structures d'inégalité. Et donc elle défendait aussi ces idées-là, mais toujours en veillant à ce que qu'il y ait un dialogue possible, qu'il y ait une concertation. On voit bien, on n'est pas très fort en France d'ailleurs pour cela, mais quand on a des avancées sociales, sans doute qu'il vaut mieux dialoguer entre syndicats de différentes tendances, syndicats et les pouvoirs politiques, plutôt que d'être immédiatement dans la désignation de l'autre comme le méchant ou l'ennemi. Donc comment, ensemble, on peut trouver des solutions de compromis? Et ça, c'est sans doute plus évangélique qu'une pure logique de rapport de force ou de rapport de pouvoir.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour continuer un petit peu à parler de Madeleine Delbrel avec des questions plus personnelles. On verra pourquoi vous avez choisi ça comme devise épiscopale. Et puis on finira aussi en expliquant combien Madeleine Delbrel n'est pas loin de nous, parce qu'on peut se dire, mon Dieu, c'est une grande figure et être un petit peu intimidé. Mais elle avait une expression, alors c'est pas les classes moyennes de la sainteté, elle, quelle était son expression? C'était la sainteté...
La sainteté des gens ordinaires.
La sainteté des gens ordinaires. On fait une deuxième pause et puis on vous retrouve, je rappelle le titre d'un des livres, on en donnera d'autres à la fin de l'émission, qu'on peut lire pour découvrir Madeleine Delbrel, L'ébloui de Dieu, les plus beaux textes de Madeleine Delbrel parus aux éditions Nouvelle Cité.
Présence dans la cité mariale 96.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
À la découverte de Madeleine Delbrel, c'est pour rappel, pour ceux qui prendraient cette émission en cours de route, le thème de l'émission de ce matin, cette grande et belle figure, trop méconnue, et nous sommes avec Jean-Marc Echène, évêque de Pamiers-Couserans, et Mirepoix, diocèse donc de notre sud-ouest, qu'il faut découvrir, si on ne le connaît pas. Allez, une question plus personnelle, Jean-Marc Echène, on l'a dit au début de l'émission, vous avez choisi comme devise épiscopale, en français, « Il n'importe pas tant d'agir que d'être agi », c'est une phrase de Madeleine Delbrel, elle l'a, ce qui veut dire que cette femme a une certaine importance dans votre vie, ou en tout cas qu'elle a éclairé votre vie de prêtre, et peut-être aussi d'évêque. Pourquoi ce choix ?
Alors, dans la période dans laquelle j'ai été appelé à être évêque, j'étais dans un chemin spirituel, et j'essaie d'y être encore aujourd'hui, justement de cette tentative de disponibilité aussi radicale que possible à l'action de l'esprit. Donc parfois, quand on est habité d'ambitions louables, généreuses, pour se changer soi-même, changer le monde, d'ailleurs changer le monde, ça commence souvent par se changer soi-même, finalement, on réfléchit avec son intelligence, on voit quelles sont nos capacités, les dons qui sont les nôtres, mais on réfléchit par rapport à soi. Donc à un certain moment, plutôt que de se dire « pour changer le monde, me changer moi-même, je vais faire ceci, cela, je vais y mettre toutes mes capacités d'intelligence et de volonté », il s'agit d'inverser un peu la vapeur. Donc en se disant « il ne s'agit pas finalement de faire des choses, mais de laisser le Seigneur faire des choses à travers nous ». Pour le dire autrement, cette formule « il ne s'agit pas d'agir mais d'être agi », on pourrait dire « il ne s'agit pas seulement de faire des choses pour Dieu », d'annoncer sa bonne parole, de développer des liturgies, des rituels, de prêcher, d'enseigner, mais il s'agit de faire l'œuvre de Dieu. Ce que je suis, ce que je projette de faire là, ou de dire, est-ce que c'est Dieu qui veut cela, ou est-ce que c'est moi dans mon humanité, avec ma petite réflexion, mes petits dons d'intelligence, qui ai choisi de faire cela ?
Mais ça demande quand même un sacré travail de discernement, non ? Quelle est la clé pour ne pas en faire une ambition, je ne veux pas du tout être indélicat, et puis on parle de Madeleine Delbrel aussi en même temps, mais un peu prétentieuse.
Oui, c'est un vrai travail de discernement, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut que ça devienne presque une habitude, un habitus. Moi, j'ai pratiqué pas mal certains sports, comme le judo, des sports de combat, où à un certain moment, pour qu'un geste devienne automatique dans le cadre d'un randori, d'une compétition, il faut l'avoir répété des centaines de fois. Donc pour qu'au quotidien, les choix que je pose ne soient pas mes choix, mais les choix de l'esprit, ça passe par des exercices. Alors Saint Ignace parlerait d'exercices spirituels, pour me dire à chaque moment, ou le plus souvent possible, ce que je m'apprête à faire là, c'est ce que Dieu veut ou c'est ce que moi je veux, pour à chaque fois essayer de renvoyer vers Dieu. Et au fond, pour essayer de faire ce qu'il souhaite que nous fassions dans ce monde. Charles de Foucault, on y faisait allusion tout à l'heure, disait on ne choisit pas sa vocation, on la reçoit, il faut chercher à la connaître, prêter l'oreille à la voix de Dieu.
Redites-nous.
On ne choisit pas sa vocation, on la reçoit, il faut chercher à la connaître, prêter l'oreille à la voix de Dieu. Donc, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Non pas ce que moi je trouverais bien pour toi. Bon, Seigneur, tu vas quand même pas, comme disait Saint Pierre, mais non, tu vas pas monter sur la croix, etc. Passe derrière moi, Satan. Ces pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais sont les pensées des hommes. Donc, à un certain moment, comment ne pas confondre nos projets, même pour Dieu, avec le projet de Dieu même ? C'est un chemin assez beau. Madeleine Delbrel l'exprime très bien dans un beau texte qui s'appelle « Le bal de l'obéissance ». Elle aime bien utiliser des comparaisons. Et donc là, il est question d'un bal du 14 juillet où tout le monde va danser. Alors, elle fait allusion, c'est assez beau aussi d'ailleurs, à des saints qui ont eu besoin de danser, tant ils étaient heureux de vivre, Sainte Thérèse avec ses castagnettes, Saint Jean de la Croix avec un enfant Jésus dans ses bras et Saint François devant le pape. Alors après, elle précise, et elle utilise cette image en disant, finalement, quand on cherche à danser, parfois on est un peu raide. Des gens qui toujours parlent de vous servir avec des airs de capitaine, de vous connaître avec des airs de professeur, de vous atteindre avec des règles de sport, de vous aimer comme on s'aime dans de vieux ménages. Et un jour, vous avez eu envie d'autre chose et vous avez inventé Saint François. Alors elle dit ensuite, pour être un bon danseur, avec vous, alors avec vous c'est avec le Seigneur, pour être un bon danseur avec le Seigneur, il faut ne pas savoir où cela mène. Il faut suivre, donc suivre le Seigneur, être allègre, joyeux, léger et surtout ne pas être raide. C'est assez beau comme expression. Vous savez, des chrétiens raides, il ne faut pas être des petits cathos secs. Il ne faut pas vous demander d'explications sur les pas qu'il vous plaît de faire. Il faut être comme un prolongement agile et vivant de vous. Être un prolongement agile et vivant du Seigneur. C'est ça finalement, être agi par le Seigneur. Entrer dans ce bal et se laisser guider par lui.
Est-ce qu'on peut finir cette émission, je ne veux pas du tout vous donner l'impression que je vous coupe la parole, c'est pour prolonger votre propos et puis le faire atterrir un peu dans nos vies. Donc elle ne parlait pas de la sainteté de la porte d'à côté ou de la sainteté des classes moyennes, mais elle avait d'autres expressions, voilà, je ne la retrouve pas, vous allez m'aider. Quelle est son expression?
La sainteté des gens ordinaires.
Pardon, la sainteté des gens ordinaires. Il y a un beau texte à ce sujet, je ne vais pas le lire en entier, mais elle dit la chose suivante, il y a des gens que Dieu prend et met à part, il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse et qu'il ne retire pas du monde. Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou qui sont des célibataires ordinaires. Un peu plus loin, ils aiment leur porte qui s'ouvre sur la rue, comme leur frère invisible au monde aime la porte qui s'est refermée définitivement sur eux. Nous autres gens de la rue croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre sainteté. Je disais en introduction que c'est sa vie sans le foin, alors c'était évidemment c'était pour nous rappeler la crèche. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, transfigurer le quotidien, ai-je lu, c'est dans le fond un peu la ligne de force de sa spiritualité.
C'est vrai que l'idée qu'elle défend, pas seulement qu'elle défend, mais qu'elle incarne, c'est l'idée suivante qu'elle reprend dans le texte que vous avez cité. Les saints, ce ne sont pas seulement les religieux, des gens qui ont des vocations spécifiques ou des grands missionnaires qui vont partir à l'autre bout du monde pour se faire découper par les Iroquois comme Jean de Brébeuf ou Isaac Jogg. Mais finalement, on est tous appelés à être des reflets du visage du Christ là où on vit, y compris dans le quotidien d'un travail, dans le quotidien d'un café qu'on va prendre au café du coin, dans la visite qu'on va faire à une personne âgée. Finalement, c'est dans ces choses quotidiennes, même dans la, elle l'exprime de manière très belle, dans la salade qu'on va aller chercher au bout du jardin pour apporter sur la table communautaire, eh bien c'est dans ces gestes aussi simples que cela que se joue notre union à Dieu et notre sainteté. Donc la sainteté des gens ordinaires, ça veut dire que la sainteté, c'est un appel, ce sera repris par le Concile Vatican II, c'est un appel qui est adressé à tous et pas seulement à quelques-uns. Il n'y a pas de choix, si on est disciple de Jésus, il n'y a pas d'autre choix que d'être des saints.
Mais plus que ça, c'est d'apprendre aussi à voir Dieu dans son quotidien. Non, enfin, c'est alors, ce qu'on entend aussi.
Il y a aussi cette idée-là.
Parce qu'on peut se fixer cet objectif, oui. Mais sentir un peu...
imaginer que notre rencontre avec Dieu se joue dans l'enthousiasme d'un grand rassemblement ou sur des lieux d'apparition tout à fait extraordinaires à l'autre bout du monde. Mais notre rencontre avec Dieu, elle se joue à travers le sourire d'une personne que l'on croise dans la rue et qui est le sourire de Dieu pour nous ce jour-là, et qui nous redonne du courage. Donc voir des signes de Dieu dans des choses tellement minimes, tellement petites, on retrouve le mystère de la crèche, le mystère de Noël, la naissance d'un enfant pauvre, dans une pauvre étable, eh bien c'est le lieu privilégié de la présence de Dieu. Donc revenir à notre quotidien. On disait cela à une chrétienne qui nous partageait le fait qu'elle allait retrouver un grand maître spirituel à la fois bénédictin et inspiré par le bouddhisme en Inde pendant la période de Noël. Alors on lui disait, bon, pour ton empreinte carbone, c'est pas terrible. Et puis tu serais resté chez toi avec un ouvrage de cet auteur spirituel à méditer profondément face à la vision de la chaîne ariégeoise. Peut-être que tu aurais rencontré le Seigneur aussi bien.
Et qu'est-ce qu'elle a répondu ?
Elle a répondu en souriant. Elle a dit « Oui, je suis d'accord avec toi, mais là, je me suis engagé, je vais y aller quand même. »
J'ai pris mon billet. Merci beaucoup, Jean-Marc Etchaine, d'être venu, donc d'avoir fait un détour par nos studios pour nous parler de Madeleine Delbrel. On va finir cette émission en donnant quelques pistes de lecture, puisqu'il n'y a pas de famille spirituelle de Madeleine Delbrel. Alors, on peut trouver des gens. Je crois qu'il y a, il me semble, une association, je vais retrouver le nom, qui s'appelle Fraternité des Parvis. Fraternité des Parvis, vous pouvez chercher. Ce sont des gens qui veulent vivre un peu de sa spiritualité, mais donc surtout, il faut la rencontrer, elle. Et pour la rencontrer, elle, il faut lire ses écrits. Qu'est-ce que vous nous donneriez, vous, comme piste de lecture?
Alors, parmi les œuvres complètes qui ont été éditées, je vous conseillerais bien deux ou trois tomes. Le tome 3, Humour dans l'amour, méditation et fantaisie. Il y a vraiment de très beaux textes, pleins d'humour, comme nous disions tout à l'heure. On parlait de la sainteté des gens ordinaires. Là, c'est le tome 7e dans ses œuvres complètes. Et puis, sur la dimension de la mission, parce que c'est vraiment une dimension essentielle dans la vie de Madeleine Delbrel. Et on a parlé aussi de l'athéisme, le tome 8e, Athéisme et évangélisation. Donc on va à la rencontre de l'autre, mais aussi pour témoigner de l'évangile. Sinon, il y a une association, l'association des Amis de Madeleine Delbrel, qu'on peut retrouver facilement sur Internet, et qui donne des recensions un peu de tout ce qui se publie, tout ce qui peut s'exprimer sur ce personnage tout à fait extraordinaire, qui sera probablement bientôt béatifié et canonisé.
Et puis le titre de ce livre, et moi qui m'a servi aussi, L'ébloui de Dieu, donc les plus beaux textes de Madeleine Delbrel aux éditions Nouvelle Cité. Je voudrais finir cette émission en la citant. Nous ne nous rendons pas compte de ce que serait l'absence de Dieu pour nous, donc nous ne nous rendons pas compte de ce qu'elle est pour les autres. Cette femme qui avait connu l'athéisme, et puis cette autre phrase, nous ne pouvons pas annoncer aux incroyants la foi comme une libération de l'absurdité d'un monde sans Dieu, car cette absurdité, nous ne la percevons pas. Merci beaucoup Jean-Marc Etchaine d'être
venu. Merci à vous Emmanuel.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.